Alors on va demander au Seigneur aujourd'hui d'ouvrir notre cœur, particulièrement parce que la session a déjà commencé depuis déjà 2 jours là, et il faudrait que le Seigneur puisse faire le maximum pour nous. On n'est pas venu pour rien, le Seigneur a quelque chose à nous donner. Alors je vous propose au début de cet enseignement, on va se confier à la Vierge Marie. Et on va demander un cœur d'écoute, non pas de mes paroles, ça importe peu, mais ce que le Seigneur va vous dire à travers ça, et que le Seigneur puisse vous donner la parole pour chacun de vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, comme on vient de parler de l'école d'évangélisation, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, mais j'ai eu la joie de servir dans cette école pendant 6 ans, au début de mon ministère. Je peux vous dire que ça a été vraiment la grâce qui m'a été donnée d'être au service des jeunes, mais aussi dans cet univers de la miséricorde de Dieu, à Paray-le-Monial. Et j'ai été témoin, des transformations incroyables chez ces jeunes et chez tous les autres qui viennent ici en session, parce que pendant tout l'été on confesse, on est là, on écoute et on passe des heures à confesser. Et je peux vous dire que c'est vraiment une joie pour un prêtre que d'être en confession. Ici on peut être pendant 5 heures en confession et c'est extraordinaire. D'ailleurs parfois, quand j'étais un peu triste, je demandais à un frère chapelain, tu peux me donner des heures de confession? Et je ressortais, mais dans la joie. Parce qu'il n'y a pas de plus beau qu'un cœur qui s'ouvre. Alors, depuis le début de mon ministère, c'est toujours le mystère pour moi. Qu'est-ce qui fait qu'un cœur s'ouvre? Qu'est-ce qui fait qu'un cœur ne s'ouvre pas? C'est un mystère. Même le mien, mon cœur à moi-même, j'ai pas atteinte à mon cœur, et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'il s'ouvre et qu'est-ce qui fait qu'il se ferme? Et donc, notre cœur est aussi un mystère à nous-mêmes. Alors, laissons-le au Seigneur. Alors, pendant des années, j'ai pu voir ces cœurs qui s'ouvraient ici, et j'ai pu faire vraiment l'expérience qu'ici, c'est la grâce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et chacun de nous, hier, on a entendu un magnifique témoignage de l'Adji. Et je suis sûr, parmi vous, il y en a qui disent « Oh, qu'est-ce qu'il a eu de la chance, celui-là » Il n'y a qu'aux autres que ça arrive. Eh bien, je crois qu'on peut tous demander au Seigneur que ça nous arrive à nous aussi. Mais, ce qui est important de voir... Merci, c'est exactement ce que j'ai besoin. Excusez-moi. C'est que c'est une expérience spirituelle. Ce n'est pas vous qui décidez le moment où Jésus vous rencontre. C'est un moment qui est donné par Dieu. Vous voyez, il a dit, il n'a pas réfléchi. Il est allé dans cette chapelle, il a attendu. Il attendait quelque chose du Seigneur et le Seigneur est venu au rendez-vous. Mais c'est une expérience spirituelle. Ce n'est pas vous qui êtes maître du moment où Dieu vient dans votre cœur. Je me rappelle ici, j'étais en train de parler du message de Paray-le-Monial dans un groupe où il y avait une jeune fille qui était assez dure, et je me rappellerai toujours de ça. Elle était vraiment posait des questions compliquées et tout ça. Enfin, je me dis, oulala, bon, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bon, et alors faisait des études, tout ça. Ça on voyait que ça bougeait beaucoup là-dedans, mais en même temps c'était très serré ici. 2 jours après, je la rencontre. J'étais en train de confesser, voilà, bon, je la rencontre, elle vient me voir, puis elle me dit, je comprends pas. Hier, on m'a dit, on va prier pour les malades. Et je suis tombé à genoux en pleurant. Et puis ensuite, eh bien, vous êtes passé devant le Saint-Sacrement devant moi, et pareil, pouf, je suis tombé par terre et j'ai pleuré. Qu'est-ce qui m'arrive? Je lui dis, mais est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Et immédiatement, elle m'a dit, ah, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Et en fait, je lui ai reposé une deuxième fois la question, mais est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Et là, elle pleurait. Alors, elle ne pouvait pas me répondre. Et troisième fois, je repose la question, est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Et là, j'ai entendu un petit profond de sa gorge, Oui. Alors, je dis, bah écoute, maintenant, tu vas aller pleurer devant le Saint-Sacrement. Prends le temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu prends le temps de pleurer. Et après, tu viendras te confesser. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pleuré longtemps, longtemps, longtemps. Vous voyez ? Puis ensuite, bon, elle s'est confessée. Puis après, elle m'a dit, mais vous savez, j'avais promis que je ne mettrais jamais les genoux à terre devant personne. Et le Seigneur lui avait fait plier les genoux sans qu'elle s'en aperçoive, parce que Dieu lui avait montré qu'elle l'aimait. Et cette question, en fait, c'est un mystère pour nous. Parce que nous n'avons pas, instinctivement, si je vous pose la question, est-ce que vous croyez que Dieu vous aime ? Vous allez répondre ? Ouais. Ouais, c'est ça le problème, vous allez répondre ? Ouais. Et du coup, en fait, vous ne le croyez pas vraiment. En fait, vous ne le croyez pas vraiment. C'est une révélation. Ça vient de Dieu que de le croire. Vous savez, avoir la foi, c'est pas croire que Dieu existe, c'est croire que Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'on a si peu la foi. C'est qu'on croit si peu que Dieu nous aime. Vous savez, le démon, il sait que Dieu existe. Hein. Il n'a pas la foi. Hein. Il sait très bien que Dieu existe. Il n'a pas la foi. Et nous, nous savons que Dieu existe, mais nous savons aussi que Dieu nous aime. Et nous avons besoin de grandir dans cette foi que Dieu nous aime. Et donc ça, c'est quelque chose qui se reçoit. Alors, comment savoir si je suis fermé à l'amour ou si je suis ouvert à l'amour ? Vous voyez, physiquement, cette jeune fille, elle était fermée, son corps était fermé. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Le discours d'un roi, un des films que je trouve merveilleux, hein, parce qu'il n'y en a pas tout le temps comme ça. On voit que même un roi, hein, qui a tout ce qu'il faut pour peut avoir un cœur fermé. Et alors, évidemment, ça se traduit par un problème. Il a un problème, il est bègue, il n'arrive pas. Voilà, il a un problème. Bon, on a tous des signes extérieurs. On voit bien que ça flanche. Et il voit bien que ça flanche. Mais quand il va voir le thérapeute, là, le psychologue qui l'aide, il dit, ce n'est qu'un problème technique. Vous allez répondre à ça. Et alors lui, le psychologue, il essaie quand même d'ouvrir un peu son cœur. Il dit, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Tout ça, il essaie d'ouvrir un peu son cœur. Il dit, non, vous n'avez pas compris. Vous êtes là pour résoudre un problème technique. Je suis bègue et donc je dois changer. Et il n'accepte pas, finalement, qu'il y ait un problème au niveau de son cœur. Il suffit juste d'avoir un tout petit peu d'humilité. Il suffit juste d'avoir un tout petit peu d'humilité. Ladji, hier, il nous a témoigné, il s'est mis à genoux, il a attendu. Vous voyez, c'est un acte de se mettre d'humilité. Et le Seigneur répond. Et le Seigneur répond. Face à l'humilité, il craque. Il craque. Alors aujourd'hui, on fête aussi Saint Benoît, qui est un maître dans l'humilité. Acceptons d'avoir besoin d'être vulnérable. Acceptons d'avoir besoin de Dieu. Alors, autre signe que nous sommes fermés à l'amour, c'est qu'on a peur. Hein. On dit que l'amour bannit la crainte. Eh bien, voilà, on a peur. Et du coup, on s'ouvre pas. Autre signal, petit signal, qu'on est fermé à l'amour, on s'isole. Vous savez, il y a toujours un groupe. Quand on est à un groupe, on marche comme ça avec le groupe, puis toujours il y en a un qui est derrière, tout seul. On va le voir, on lui dit, ça va, il y a un problème ? Non, tout va bien. Tout bien, non, mais il n'y a pas de problème. Et puis il est tout seul derrière, et évidemment qu'il y a un problème. Mais il ne veut pas que ça soit dit, mais il veut bien qu'on vienne le voir. Ou alors, on a un besoin incroyable de séduire. On a l'impression qu'il faut acheter l'amour des autres systématiquement, et du coup, il faut être parfait, etc. Il faut être parfait. Il y en a qui sont paralysés par la perfection. Et c'est comme le jeune homme riche, il arrive, il dit, je veux... Qu'est-ce qu'il faut faire pour être parfait ? Le Seigneur lui dit, bon, bah vas-y, la loi et tout. Mais en fait, Jésus lui dit à la fin, suis-moi. Et là, il est paralysé. Voilà. Il veut être parfait sans Dieu. Il veut être parfait, mais sans Jésus. Et beaucoup de gens vont se confesser. Ils se disent, ah là là, j'ai fait quelque chose, c'est pas bien. Mais est-ce que tu souffres d'avoir blessé ton image idéale de toi ? Ou est-ce que tu souffres d'avoir vraiment fait le mal à quelqu'un d'autre ? Vous voyez ? Parce qu'on a tous en nous une image idéale de nous-mêmes. Vous voyez ? Alors moi, voilà le Francis parfait qui est là et qui me dit « Ah, Francis, tu devrais être plus parfait. »« Ah bon ? Tu devrais être parfait. C'est nul ce que tu fais. » Ah oui, s'il m'énerve, attends. « Allez, vas-y, donne-toi à fond. Allez, tu dois être parfait. Sinon, on ne t'aimera pas. » Vous voyez ? Et tout le temps, il est là pour me dire, tu devrais être parfait. Tu devrais être parfait. Et la perfection, c'est évidemment moi qui l'invente, ma perfection. Et si tu étais comme ça, les autres t'aimeraient, etc. Et vous voyez, ce petit personnage qui est juste à côté de vous, là, et qui vous dit ça, il faut être parfait, c'est le diable. Il faut le flinguer. Vous voyez, il faut le flinguer. En fait, il faut flinguer l'image idéale de vous-même. Vous savez, Jésus, quand il montait sur la croix, il était tout nu. Alors, vous savez, l'image idéale de lui-même, hein ? Eh bien, il faut le flinguer. Dieu vous aime comme vous êtes. Et les autres aussi, d'ailleurs. Ils n'aiment pas du tout l'image idéale que vous avez créée en vous. Ils vous aiment, vous, tel que vous êtes. Et vous n'avez pas besoin de répondre à ce désir de perfection. Ça, c'est vraiment ce qui nous empêche de nous ouvrir à l'amour. Et puis, un des signes aussi, c'est qu'on se compare tout le temps aux autres, on se juge, puis ça devient tellement fatigant d'ailleurs qu'on n'arrête pas de se comparer. Et puis, on ne croit pas au pardon. On ne croit pas au pardon. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, vraiment, tu as de la chance de m'aimer? Je suis vraiment un cadeau pour toi? Vraiment? Tu m'aimes pas? Ben, c'est vraiment, tant pis pour toi. Hein. Vraiment, c'est... Et on l'a eu ce matin, la louange, il y a quelqu'un qui a dit ça, là. J'ai entendu tout à l'heure. Mais... Est-ce que, ouais, je suis une merveille, c'est super, hein. Vraiment, tu as de la chance. Non, mais sincèrement, est-ce que vous pourriez le dire, ça? Si vous pouvez le dire, mais en toute sincérité, je suis un cadeau pour toi, vraiment. Parce que comment voulez-vous vous donner aux autres si vous ne croyez pas que vous êtes un cadeau? On ne donne pas des merdes aux autres, vous voyez? On donne le meilleur. Vous savez, imaginez Jésus. Jésus qui se donne à vous. Ah, je vais me donner aux autres, là. Je vais me donner à tout ce monde, là. Ah, mais vraiment, c'est pas un cadeau. Hein. Je vais me donner aux autres, mais c'est vraiment pas... Je suis vraiment pas terrible, mais bon... Il aurait jamais eu la force de se donner jusqu'au bout sur la croix s'il n'avait pas cru qu'il était le plus beau cadeau au monde, lui-même, pour l'humanité. Alors, si vous croyez que vous êtes le plus beau cadeau pour l'humanité, vous allez vraiment vous donner. Et vous allez faire des choses, comme dit Jésus, plus grandes encore. Ça, c'est vraiment une parole de Jésus qui m'interpelle. Comment peut-on faire plus que Jésus? Ça, c'est vraiment étonnant. Mais ça veut dire quoi, cette parole? Ça veut dire que vous vous étonnerez vous-même. Donc, on ne donne pas quelque chose de nul aux autres. On ne peut pas se donner même dans le couple à l'autre si on ne croit pas qu'on est un cadeau pour l'autre. Parce que dans le couple, Dieu vous a choisi avec vos qualités et vos défauts pour l'autre. Pour sa sainteté. Donc tout l'autre vous est donné comme un cadeau, ses qualités et surtout ses défauts. Tout vous est donné comme un cadeau pour que vous grandissiez dans l'amour. Alors, comment faire pour ouvrir son cœur? Alors là, on est dans la première partie toujours, hein, recevoir l'amour de Jésus. Mais je veux bien ouvrir mon cœur, mais je n'y arrive pas. Francis, tu nous dis d'ouvrir notre cœur, mais je n'y arrive pas. Vous voyez, j'y arrive pas. J'ai beau faire des efforts, j'y arrive pas. Alors comment faire? Ben, faites comme Jésus. Vous voyez, Jésus... Il n'a pas ouvert son cœur. Il a laissé quelqu'un d'autre lui ouvrir. Mais il a laissé quelqu'un d'autre lui ouvrir son cœur. Alors laissez Jésus, laissez les autres vous ouvrir le cœur. Ils servent à ça, les autres, à vous ouvrir le cœur. Eh bien, laissez-les faire. Hein. Laissez votre cœur être vulnérable. Et puis, soyez bienveillants. Soyez bienveillants. Vous voyez, vous avez tous vu le film Amélie Poulain, là. Merveille. Il est déjà vieux, hein, pour vous, c'est un vieux film déjà. Et Amélie Poulain, dans ce film, c'est extraordinaire parce qu'en fait, c'est un film sur la solitude. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, c'est sur la charité, ça non, rien à voir. » C'est un film sur la solitude. Cette fille, elle est toute seule. Et tous les acteurs de ce film sont toujours tout seuls. C'est que des solitudes. Et elle a été enfermée dès son enfance parce qu'elle ne pouvait jamais parler à son père, jamais parler à sa mère, à personne. Et alors, elle s'est fait un monde à l'intérieur. Et elle veut en sortir. Elle veut en sortir. Et elle a compris qu'il fallait être bienveillant, qu'il fallait faire du bien pour sortir elle-même de son cœur. Et elle l'a fait. Au fur et à mesure, toute l'histoire d'Amélie Poulain, c'est comment sortir d'une solitude. Et son chemin, qui n'est pas parfait d'ailleurs, mais qui est un chemin pour sortir de la solitude. Et ça va passer par la bienveillance. Alors, est-ce que c'est plus facile pour vous d'aimer quelqu'un d'aimable ou quelqu'un de désagréable ? Quelqu'un d'aimable. Alors soyez aimable. Soyez aimable pour qu'on puisse vous aimer plus facilement. Hein, soyez aimable. Et bien, cette bienveillance, elle ouvre les cœurs des autres. Si je suis bienveillant, les autres vont m'ouvrir leur cœur. Et pareil avec Jésus, soyons bienveillants avec Jésus. Jésus, je viens à toi et je veux aussi te connaître, t'aimer vraiment. Soyons bienveillants avec les autres et avec Jésus. Et si on est agité, allons voir un prêtre. Oui, il faut chasser les démons de l'agitation. Agité, ce n'est pas normal d'être agité. Demandons la paix. Alors, comment faire pour accueillir Jésus? Alors, il y a un texte juste avant. Pierre, m'aimes-tu? Vous en avez parlé hier. Pierre, m'aimes-tu? On a la première apparition de Jésus aux apôtres. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, c'est dans Jean chapitre 20, verset 19. Premier jour de la semaine, et les portes étaient closes là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs. Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau « Paix à vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Qu'est-ce qui se passe? La première réaction qu'ils ont, eux, après, après avoir vu Jésus ressuscité, c'est qu'ils se planquent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec un Jésus ressuscité? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il attend de nous là? Et alors ils se mettent dans le cénacle et ils se planquent. Voilà. Alors les barrières, c'est ce qu'on arrive le mieux à faire, se planquer. C'est ce qu'on arrive le mieux à faire. Vous savez que c'est notre tendance naturelle. Vous savez que c'est notre tendance naturelle à aller vers le plus sécuritaire et le plus confortable. Vous savez ça? Toujours, c'est votre tendance naturelle. Le plus sécuritaire, le plus confortable. D'ailleurs, quand vous devenez vieux, il y a des gens qui se lèvent tous les jours à la même heure, ils font tous les jours le même circuit, ils reviennent au même endroit, ils mangent la même chose et se couchent à la même heure. Vous voyez, c'est sécuritaire. On refait toujours les mêmes choses. Voilà. Comme ça, on sait bien où on va, qu'est-ce qu'on fait, et on a bordé la journée. C'est tellement bordé qu'on s'ennuie, mais c'est pas grave, c'est bordé. Donc c'est une tendance naturelle que vous avez, que nous avons, qu'il faudra toujours aller contre. Parce que vous savez, la définition de la jeunesse, c'est quoi? La définition de la jeunesse, c'est la capacité d'adaptation. La capacité d'adaptation. Vous êtes jeune quand vous savez vous adapter. Vous êtes plus jeune quand vous ne savez plus vous adapter. Alors moi, il y en a un qui était hyper jeune, c'était Jean-Paul II, vous voyez. Jean-Paul II, hyper jeune, jusqu'à la fin de sa vie, il avait toujours 6 mois d'avance sur tout le monde, il était toujours en train de trouver des trucs nouveaux, et jusqu'à la fin, il surprenait tout le monde. Une capacité d'adaptation que j'ai rarement vue. Par contre, j'ai vu des jeunes de 20 ans, alors carrément vieux, les pantoufles, l'ordinateur, le truc, et on ne bouge plus. On a les mêmes choses, et en fait, on est en sécurité. Ils sont vieux à 20 ans. Vous voyez? Alors, ça ne dépend pas de l'âge, la jeunesse. Ça dépend de cette capacité que nous avons à prendre des risques et à changer le côté sécuritaire et confortable qu'on veut. Moi, je suis curé de paroisse et il n'y a pas longtemps, on a eu l'école d'évangélisation, on en parlait juste avant, qui ont fait une explosion dans ma paroisse. Alors, j'avais un peu peur quand même parce qu'ils sont arrivés, boum, boum, ils ont évangélisé à fond. Ça, ils ont mis le feu. Et ça a complètement changé la paroisse. Et en fait, il fallait profondément ce bouleversement pour que ça bouge. Eh bien, nous-mêmes, acceptons qu'il y ait des explosions dans notre vie. Prenons des risques. Je rappelle un jeune de 30 ans, il s'ennuyait. Vous savez, l'ennui, c'est vraiment un signe qu'on n'avance pas. Qu'on s'est enfermé dans un... Il avait son boulot, il avait tout ce qu'il fallait. Puis je dis, il me dit, mais comment faut faire pour que j'avance maintenant? Je dis, tu lâches tout et tu fais l'école. Tu lâches tout, tu fais l'école. Oh, là, c'est comme si j'avais dit, un truc énorme. Ouais. Je dis, attends, t'es ingénieur, t'as de quoi faire, tu prends pas tellement de risques. Je veux dire, si t'étais. Tu prends un risque, mais tu prends pas un énorme risque. Tu casses tout, tu y vas. Le temps qu'il a mis pour répondre, c'était dingue. Parce qu'en fait, très vite, il s'était fait son confort et son truc, et c'était extrêmement difficile pour lui d'en sortir. Alors, le fait, vous voyez, de se remettre dans le risque, eh bien, ça l'a sauvé. C'est ouvert. Alors, dans ce passage, On voit que l'Esprit-Saint, il n'aime pas du tout les barrières. Il est là, Jésus est là, au milieu d'eux, alors que toutes les barrières sont fermées. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Paix à vous. Voilà. Il leur donne la paix. Face à la peur, le Seigneur nous donne la paix. Et puis, il montre son corps, ses blessures. C'est ce qu'on fait ici. On va regarder les blessures de Jésus. Ils étaient dans la joie. Et tout à coup, ils ont été dans la joie en voyant ces blessures. Ouais, c'est étonnant, hein ? Quand on voit une blessure, en général, on ne se met pas dans la joie. Eh bien là, on va regarder les blessures de Jésus. Prenez le temps de les regarder. Vous voyez ? Prenez le temps de regarder Jésus sur la croix. On a peur, on a toujours des icônes. Hein, mais, ah si, on a une croix là, mais souvent, vous voyez, pour acheter une croix, par exemple, en France, on ne peut plus acheter une croix, une bête croix avec un Jésus dessus. Hein. Vous n'en trouverez pas. Hein. À Lourdes, peut-être un peu. Moi, je vais en Allemagne pour les acheter maintenant, les croix. Et je l'offre, à chaque fois, je l'offre une croix. Je n'offre plus d'icônes, je l'offre une croix. Regarde Jésus sur la croix. Et prenez la croix et regardez Jésus. Tous les jours, vous regardez Jésus pendant 5 minutes sur la croix. Vous devenez des grands saints. Tous les saints, pour obtenir l'amour de Jésus, ils ont regardé la croix. Ils ont regardé les blessures de Jésus. Et ils ont grandi dans la croix, dans l'amour. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Jésus l'ouvre et il dit, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et il ne le dit pas que aux apôtres comme prêtres. Il le dit à chacun de nous. Ce que nous lions sur la terre sera lié au ciel. Et ça, c'est extraordinaire, d'être témoin de la miséricorde de Jésus. Alors, laissons-nous... Alors, il y en a parfois qui ne parlent pas à Jésus. Là encore, ils ne parlent pas. Est-ce que tu pries ? Oui. Est-ce que tu parles à Jésus ? Non. Alors, je dis, qu'est-ce que tu fais quand tu pries ? Si tu ne parles pas à Jésus ? Mais parler à Jésus... Jésus, il a soif qu'on lui parle, même si c'est pour lui dire « j'en ai marre » et tout. Parlez-lui, dites n'importe quoi, mais dites-lui quelque chose. Vous voyez ? Et puis deuxièmement, écoutez-le vous parler. C'est toujours plus intéressant quand c'est lui qui parle. Thérèse d'Avila définit la prière comme un dialogue d'amour. Je parle à Jésus, Jésus me parle. S'il ne me parle pas, ça n'a aucun intérêt. Il est le Verbe, il est la parole, il a envie de nous parler. Laissons-le nous parler. Et puis, notons ce qu'il nous dit sur un petit carnet. C'est important de retenir ce que Jésus nous dit. Jésus ne parle pas à des gens qui ne retiennent pas. Jésus ne parle pas dans le vide. Il ne parle pas pour rien. Si vous retenez sa parole, il vous parlera. Et plus vous prenez sa parole au sérieux, plus il vous parlera. Et plus il agira à travers sa parole. Donc, n'hésitez pas à écouter. Et puis, considérez le prix que vous avez. Quel est le prix que vous avez ? Vous savez ça ? Quand vous allez acheter du pain, vous donnez de l'argent et vous prenez le pain. Donc pour vous, le pain, c'est moins important que l'argent. Vous voyez ? Vous êtes d'accord ? Quand vous achetez du pain, vous donnez de l'argent et puis vous prenez le pain. Donc l'argent, c'est moins important que le pain. D'accord ? Eh bien, le Père du ciel, dans la balance, il a mis son fils. Là, son fils qui est Dieu, qui est lui-même, hein, quelque part, qui est le plus beau des enfants des hommes. Et puis de l'autre côté, il a pris la plus grande crapule du monde, ou moi-même, voilà, moi. Voilà. Qui est-ce qu'il a préféré ? Qui est-ce qu'il a préféré ? Il m'a préféré, moi, parce qu'il a donné son fils comme prix pour me racheter, moi. C'est-à-dire que chacun de nous, il a le prix de Dieu. Vous valez... Combien tu vaux ? Je vaux Dieu. Je vaux Dieu, c'est mon prix. Parce que Dieu m'a acheté. Alors tous ceux qui disent « je suis nul », vous allez vous confesser. Immédiatement. Vous allez vous confesser. Parce que vous dites à Jésus que le prix qu'il vous a acheté, eh ben, il s'est gouré. Il s'est gouré. Lui, il vous a estimé à sa valeur, à la valeur de Dieu, et vous vous estimez à zéro. Et c'est pas juste. Vous déshonorez Jésus sur la croix. Vous dites, Jésus, t'es monté sur la croix pour rien. C'est faux. C'était pas intelligent de faire ça. Donc vous avez le prix de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça ? Vous êtes aussi précieux devant le Père que le Fils, que son Fils unique. C'est incroyable le prix que vous avez. Pourtant, quand on se regarde, on se dit quand même, c'est pas terrible. Hein. Eh bien, vous avez ce prix-là. Et c'est pourquoi vous devez dire, comme ce matin on l'a entendu, merci Seigneur pour la merveille que je suis. Non pas parce qu'en soi je suis une merveille, parce que toi tu m'as estimé à ce prix-là. Et ça me dépasse. Alors, redonnons à Jésus hein, ce qu'il a acheté. Alors, souvent on se dit, mais moi j'ai tant de problèmes, vous savez, j'ai tant de soucis. Et ça, c'est aussi une paralysie pour nous. C'est qu'on a l'habitude de voir les choses comme un problème. Vous voyez ? On parle des problèmes de couple. Alors je dis, mais non, il n'y a pas de problème dans le couple. C'est pas un problème. C'est pas un problème le couple, c'est une grâce. Voilà. Alors plein de gens qui viennent me voir, père, j'ai un problème. Alors ils racontent leur problème. Bon. Alors vous savez comment je réponds à la fin ? Je dis, ouais, t'as un problème. Tu sais ce que c'est ton problème ? C'est toi le problème. C'est toi le problème. Oui. Parce qu'en fait, quand vous résumez tout ce qu'il a dit à la fin, vous dites, ben ouais, c'est lui le problème. Alors, comment tu vas faire ? Tu vas donner ton problème à Dieu et tu n'auras plus de problème. Tu donnes ta vie à Dieu, tu n'as plus de problème. Oui. Parce que vous savez, hier, on a eu la parole du semeur, là. Et ça sème dans les ronces. Et puis les soucis du monde, les soucis. Mais père, j'ai tellement de soucis, je penserai à Dieu après. Vous savez, les soucis, c'est quelque chose qu'on crée soi-même, vous savez. C'est une bonne manière de s'occuper de soi-même, les soucis. Pour ça qu'on en a tant, d'ailleurs. Parce qu'on s'aime beaucoup. Alors on est tout le temps en train d'avoir des soucis. Parce qu'on s'occupe de soi. Hein. Occupez-vous des autres, vous n'aurez plus de soucis. Occupez vraiment vous des autres. Vous allez comprendre que les soucis, c'est un égoïsme. J'ai tant de soucis, père, tant. Mais vous inquiétez pas, quand vous aurez résolu ces soucis-là, il y en aura d'autres qui viendront. Et il y en aura toujours d'autres. Parce que si vous n'aviez pas ces soucis, vous seriez obligé de vous poser la question, pourquoi je vis ? Pourquoi je vis ? Alors, il y a une femme qui avait vécu des choses difficiles dans sa vie, appelée Colette, que j'ai rencontrée, j'ai eu la joie de connaître, et qui a eu une enfance tragique, enfin bon, pas tout raconter, mais c'était terrifiant. Et du coup, elle a eu elle-même des enfants, qu'elle n'a pas su gérer d'ailleurs, et qui ont eu aussi une existence un petit peu tragique. Et cette femme, à un moment donné, toute sa famille était détruite, ses enfants étaient alcooliques, etc. Enfin, bon, c'était un peu tragique, voilà. Et sa santé s'est détériorée, et elle a été pratiquement morte. Je dis pratiquement morte, parce que vous savez, c'était l'expérience de NDE, hein, Near Death Experience, hein, l'expérience de mort imminente. On appelle ça en français. Expérience de mort imminente. Vous savez, c'est les gens qui sont presque morts, là, puis qui, tout à coup, ils se voient dans un tunnel et tout. Vous connaissez ça, hein ? Ils se voient dans un tunnel, puis ils se retrouvent dans un monde merveilleux, etc. Il y a des lumières partout. Et puis, il y a des gens qui leur parlent, des gens qui le... Voilà. Et c'est une expérience qui est extraordinaire. Je ne sais pas quoi en penser au niveau psychologique ou... Vous savez, c'est pas mon problème. Mais ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est que tous, ils disent qu'ils sont en paix. Et que... ils n'ont absolument pas envie de revenir. Vous voyez, ils se sentent tellement bien. Et alors, ce qui est étonnant, quelle que soit leur religion, hein, c'est une expérience universelle. C'est ça qui est intéressant et qui est aussi scientifique, d'une certaine manière. Hein, puisque c'est... Voilà. Quand ils reviennent, et on voit qu'ils changent de vie. Ce sont des gens qui ont tout à coup une joie de vivre. Ils trouvent que la vie est belle, alors qu'elle reste terrible, hein. Cette femme, elle a continué à vivre avec son passé, avec sa santé détériorée. Mais elle émane de la paix. Elle commence à prendre goût à la vie. Elle commence à vouloir le bien et à la paix des autres, etc. Donc leur vie change. Et ça se voit. Et donc sa fille, Betty, que j'ai connue aussi, eh bien, elle a vu ça. Elle était déjà dans un état terrible, sa fille. Et elle a décidé de vivre grâce au fait que sa mère décide de vivre. Et puis, elle a cheminé, et j'ai pu la baptiser l'année dernière, elle a cheminé vers le baptême. Et toute sa vie, elle a repris vie. Alors c'est ça qui est beau, c'est que quelque part, on commence, une fois que l'amour vient dans notre cœur, on commence à réapprendre à vivre. On réapprend à vivre. Il y a plusieurs personnages comme ça qui vont réapprendre à vivre dans la Bible. Hier soir, on a entendu Ladji. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa vie était, il y avait la mort. Et tout à coup, quand l'amour est rentré dans son cœur, il a commencé à réapprendre à vivre. Vous savez, quand on est enfant, on ne se pose pas la question, on vit. On ne vit pas bêtement, mais on vit. Et puis dès qu'on comprend que notre vie, il faut la gérer soi-même, alors on se pose la question, mais pour que je vis, mais où je vais, mais est-ce qu'il faut l'un et, vous voyez, en fait, dès que notre vie commence à être menacée, eh bien, on commence à se poser la question, pourquoi je vis? Et du coup, on commence à réapprendre à vivre. Et c'est là où l'amour a une importance importante. Est-ce que je vais réapprendre à vivre avec l'amour ou sans l'amour? Alors, dans cette histoire, on se dit, mais j'aimerais bien que l'amour vienne, j'aimerais bien réapprendre à vivre, mais j'ai peur, on a des peurs. Alors, on a envie de réussir, on a peur parce qu'on a peur des échecs, première peur qu'on a. Et en fait, quelque part, on cherche la réussite. C'est normal, on en a besoin quand on est jeune, la réussite. Parce qu'on s'évalue, on dit, ah, je suis bien, je suis fort. Deuxième peur, c'est qu'on a peur de la solitude. Et ça, c'est vraiment aussi, on ne veut pas rester seul. Troisième peur, c'est qu'on a peur, est-ce qu'à la fin, ce que j'aurais fait aura servi à quelque chose? Vous voyez? Et bien tout ça, hier, Ladji, il a répondu. Il a dit deux fois la phrase suivante, je ne sais pas si vous avez entendu. À partir de ce moment-là, ma vie a pris un sens et elle a porté du fruit. Il a dit deux fois cette phrase. Ma vie a eu un sens et elle a porté du fruit. Et vous avez vu tout ce qu'il a fait après pour réapprendre à vivre? Il a eu son bac finalement, etc. Il a réappris à vivre. Eh bien, en fait, quand l'amour de Dieu vient dans notre cœur, on réapprend à vivre. Mais d'une autre manière, avec d'autres règles. Jésus, il est venu dans la vie des 12 et il a dit, bon, ben, je change les règles maintenant je vous mets l'amour, et à partir de ça, vous allez réapprendre à vivre. Et ils ont réappris à vivre avec l'Esprit Saint. Et c'était totalement différent parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de vivre avec l'Esprit Saint. Ils ont dû réapprendre à vivre. C'est pour ça que quand, dans Saint Jean, chapitre 3, Nicodème vient voir Jésus, lui dit, mais alors, tu es certainement le Messie, dis-toi, si tu ne renais pas de nouveau, tu ne peux pas aller dans le royaume. Ah oui, mais comment puis-je renaître, revenir dans le ventre de ma mère et renaître? Elle lui dit, mais attends, tu es un grand intellectuel, mais tu ne sais pas ce genre de choses? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu auras connu l'amour, tu réapprendras à vivre. Tu apprendras même à vivre. La femme adultère, Saint Jean chapitre 8, je vous donne quelques personnages que vous pouvez après méditer. La femme adultère, elle est accusée, elle était adultère et j'imagine qu'elle était vraiment pécheresse, quoi. Faut pas. Voilà. Et elle savait qu'elle était déjà accusée, mais là on l'accuse devant Jésus et bon, elle dit ma fin est proche, quoi. Voilà. Et quand Jésus lui dit personne ne t'a condamné, va et ne pêche plus, cette femme va vivre une nouvelle vie. Elle a été sauvée de la mort. Elle a vu sa fin arriver et elle va devoir réapprendre à vivre avec cette phrase de Jésus, ne pêche plus, ne pêche plus. Moi, ça m'a toujours frappé parce que quand j'étais à Rome, juste avant mon ordination, j'ai été me confesser, pas loin avant, j'étais à Sainte-Marie-Majeure, là il y avait j'ai cherché un prêtre voilà, qui savait parler français, alors il y a des prêtres là-bas, il y a 30 langues, voyez, ils savent parler 30 langues, c'est complètement fou. Alors j'ai vu un bon dominicain qui était là, qui avait l'air assez sympa. Alors j'y vais et je me confessais, je dis voilà, je vais t'ordonner dans un mois. Et il me dit, oh c'est extraordinaire. Alors, vous voyez, mais... Puis après il me dit, écoute, je te donne le pardon et puis ne pêche plus. À partir de maintenant, tu ne pêches plus. Alors j'ai dit, et il me dit, puis il me le répète deux fois. À partir de maintenant, tu ne pêches plus. Alors je dis, mais il a bu, ou qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je sors, puis je vais prier, je vais faire ma pénitence tranquillement en Sainte-Marie-Majeure. Puis, et en sortant de Sainte-Marie-Majeure, illumination, vraiment, il a raison. Il n'est pas nécessaire de pêcher. Bah, nécessaire de péché. Allez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons tout reçu pour ne pas pécher. Si le péché, j'étais obligé de tomber dedans, c'est que Jésus ne serait pas mon sauveur. Donc si, au moment où je vais pécher, je demande à Jésus sa grâce, « Seigneur, sauve-moi », si dans la tentation, je demande à Jésus de venir avec la puissance de sa croix dans mon cœur pour me sauver de ce combat, j'en ai fait l'expérience après, eh bien, je ne tombe pas. Je ne tombe pas. J'ai appris à ne pas tomber. Vous voyez ? C'est extraordinaire d'apprendre à ne pas tomber. Et on découvre qu'il n'est pas nécessaire de tomber. Qu'on peut, avec la grâce de Dieu, sinon ça ne sert à rien, la grâce, ce n'est pas vrai. Si je ne peux pas, c'est que ce n'est pas vrai, c'est que Dieu ne m'a pas sauvé du mal. Et j'ai commencé à exercer la puissance de Dieu, la puissance de la croix. Je me suis mis au pied de la croix, voilà, je me mets au pied de la croix. Jésus, sauve-moi dans cette tentation, sauve-moi. Et de fait, je suis sauvé de cette tentation, je ne tombe pas. Ce qui veut dire que quand je tombe, c'est que je le veux bien. Quand je tombe, je le veux bien. Parce que si je voilà. Alors évidemment, je ne parle pas, il y a des habitudes très longues de péché qui font que on retombe, puis on revient, etc. Mais ce qui était important pour moi, ce n'était pas ça. Je savais que j'allais repécher. C'était de comprendre qu'il n'était pas nécessaire de pécher. Et que je pouvais très bien ne pas pécher. Cette possibilité-là, elle est réelle. Et on peut l'exercer. Et du coup, on se rend compte à quel point la puissance de l'amour de Jésus sur la croix, elle est réelle. Et on peut l'exercer. On peut en faire vraiment l'expérience. Alors, trois choses qui vont dans le passage que vous avez médité, Pierre, m'aimes-tu ? Trois fruits de l'amour. Trois fruits de l'amour. Là, c'était jusqu'à maintenant, c'était comment recevoir l'amour de Jésus. Et maintenant, on passe à le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour, c'est premièrement la dignité. Vous savez, Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu ? Il ne dit pas, Pierre, tu sais, je t'aime, et tu sais, je t'ai pardonné la trahison, là. Tu sais, je t'aime, est-ce que tu crois que je t'aime ? Non. Il dit, m'aimes-tu ? La dignité pour Pierre, c'est de dire, sa dignité, c'est de dire, je t'aime. Alors qu'il sait très bien qu'il est loin d'être parfait dans l'amour. Sa dignité à lui, c'est de dire, je t'aime. Et la délicatesse de Jésus, c'est de lui permettre de l'aimer. Vous savez, Jésus nous permet de l'aimer. Il nous a donné l'Esprit Saint. S'il nous a donné l'Esprit Saint, c'est qu'il savait qu'on n'allait pas pouvoir l'aimer. Hein. Alors il nous donne l'amour pour l'aimer. Vous voyez ? Il nous donne même la capacité de l'aimer en retour grâce à l'Esprit Saint. Parce qu'il savait qu'on ne pourrait pas l'aimer. C'est surnaturel d'aimer Jésus. Il y en a qui disent, je ne comprends pas, je n'ai pas le goût de Dieu. Mais avoir le goût de Dieu, c'est une grâce, vous savez. Normalement, on n'a pas le goût de Dieu. Parce qu'on est pécheur. C'est une grâce d'avoir le goût de Dieu. Il faut la demander. Ce n'est pas naturel. Enfin, c'est naturel, mais c'est notre nature qui est blessée. Alors, on va contre notre propre nature. Donc, demandons le goût de Dieu, hein. Alors notre dignité, c'est ça. Vous savez, la dignité, c'est fondamental. C'est la première chose qui nous fait démarrer dans notre vie. L'Adji, hier, il nous a dit, j'ai retrouvé ma dignité. La première chose qu'il a retrouvée, c'est qu'il s'est senti aimé. C'est de savoir qu'il a du prix pour quelqu'un. C'est la dignité. Et vous savez, la dignité, quand on l'a perdue, on l'a perdue. Vous voyez ? Quand on l'a perdue, sa dignité, on l'a perdue. Et alors, qui vous la rendra ? C'est pas vous, hein. Vous aurez beau faire tous les efforts du monde, vous ne pourrez pas retrouver par vous-même la dignité. Je me rappelle d'une personne qui était grande pécheresse et qui s'est convertie. Bon, je ne vais pas tout raconter. Et s'est convertie. Et après, il avait reçu le pardon de Dieu, tout ça, il avait tout reçu, hein. Mais intérieurement, il ne se pardonnait pas. Il n'arrivait pas à se pardonner. Alors je lui dis, mais attends, de fait, Dieu t'a pardonné, tout ça tu le sais, mais ta dignité, c'est lui qui te la rendra à un moment donné. Alors en fait, il a fait une pénitence. Je lui dis, quelle pénitence ? Alors il a fait une pénitence, une grosse pénitence, une vraie. Alors, je vais aller à Compostelle tout seul, avec 1 euro. Et il est parti à Compostelle. Pendant... Je dis, oui, ça, c'est une très bonne pénitence. Hein. Allez, hop, il a mis 4 mois et il est parti à pied, voilà, avec 1 euro en poche. Et je dis, tu vas voir, un jour, un matin, tu te réveilleras, je ne sais pas quand, tu seras bien avec toi-même. Dieu t'aura rendu cette dignité et c'est lui qui te la rend. Tu te réveilleras comme ça, avec ta dignité. Avant, essaye pas de la chercher, c'est lui qui te la rendra. Oui, c'est important ça. Par contre, protégeons notre dignité. Protégeons notre dignité. Quand on la perd, on perd l'essentiel. On perd quelque chose de très important. On perd le moteur même de notre vie. Donc Jésus, la première chose qu'il fait, c'est de redonner la dignité à Pierre. En lui disant, m'aimes-tu? Et c'est notre dignité que d'aimer. D'être capable d'aimer. Deuxièmement, la responsabilité. Dieu lui donne sa responsabilité. Paix mes brebis. Tout de suite, une fois qu'on a retrouvé sa dignité, on peut avoir des responsabilités. Hein. Vous voyez, dans les cités, ce qui est difficile aujourd'hui dans les cités, on a la chance d'avoir ma paroisse, on est à côté, on a une paroisse avec une autre paroisse avec une cité, on a le rocher avec nous, et c'est extrêmement difficile de leur donner une responsabilité. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas leur dignité. La responsabilité s'appuie sur la dignité. Allez donner une responsabilité à quelqu'un qui intérieurement a perdu sa dignité. Vous allez voir. Allez dans les pays les plus pauvres où on les méprise, etc. Allez leur donner une responsabilité. Ils se laissent vivre. Ils ne prennent pas leur responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé pour Ladji? Dès qu'il a été aimé, dès qu'il a retrouvé sa dignité, il a pris sa vie en main. Il a pris des responsabilités. On l'a entendu hier. Il a réappris à prendre des responsabilités, à s'occuper des autres. Vous voyez? Et donc, on a vraiment besoin d'être remis dans une responsabilité. C'est notre dignité que de travailler pour les autres, que de prendre, d'avoir une mission. Il y a un passage de l'Écriture qui est repris d'ailleurs par Jean-Paul II dans Christi Fidelis Laici sur les laïcs. C'est les vignerons. Voilà, il appelle, c'est le maître qui appelle des ouvriers à sa moisson, pardon, des ouvriers à sa vigne. Des ouvriers à sa vigne. Alors il en appelle au début de la matinée, puis après, puis il arrive vers l'après-midi, il dit, mais alors vous, qu'est-ce que vous faites? Bah on est là, on fait rien. Et pourquoi vous faites rien? Bah personne n'a eu besoin de nous. Allez, venez à ma vigne, venez à ma vigne. Alors vous savez, s'il y en a qui s'ennuient, venez à la vigne du Seigneur. Hein, on pouvait toujours être prêtre. Alors là, vous vous ennuyez pas. Hein, bon. Mais c'est un appel du Seigneur quand même. Bon. Vous pouvez en tout cas évangéliser. Mais ce qui est beau de voir dans cet évangile, c'est que, et Jean-Paul II parlait de ça, il n'est pas permis aujourd'hui de ne rien faire. Il n'est pas permis de ne rien faire. Alors, j'étais responsable de l'école d'évangélisation et j'étais étonné par l'art qu'ont les gens à perdre leur temps. C'est étonnant, hein, les gens qui perdent leur temps. Alors qu'en fait, ils ont des capacités énormes, énormes. Et on peut être responsable, on peut avoir, par exemple, aujourd'hui, c'est sur Facebook, tous, on va à un apéro, place de la liberté, à tel endroit, à telle heure. Et alors, ils arrivent tous, ils sont 5000 pour un apéro. C'est génial, non? Super. Ça ne sert à rien, mais c'est super. Hein. Oui, c'est... Et je me dis, c'est génial en même temps, c'est une puissance incroyable. Vous pouvez mettre 5000 personnes dans le même endroit. C'est fantastique comme outil, ce truc-là. Je me suis dit, mais ces mêmes jeunes, s'ils mettaient leur intelligence à des trucs, vous voyez, tous réunis pour l'adoration, à tel endroit, et on fait l'apéro après. Ben, génial. Et alors, tout à coup, les gens qui arrivent, mais qu'est-ce qui se passe? On va tous au même endroit, où c'est? Ah ben, c'est l'adoration. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un apéro après. Ah bon? Et les gens en parleraient. Les mêmes choses, les mêmes techniques, les mêmes choses, mais pour quelque chose d'intelligent. Et je me dis, vous avez, dans la génération qui vient, vous avez beaucoup plus d'audace que nous, ma génération. Je suis plus vieux que vous. Hein. Bon. Beaucoup plus d'audace. Vous avez en plus des moyens beaucoup plus grands. Et en fait, vous pouvez beaucoup plus que nous. Parce que, en fait, vous avez aussi la chance de ne pas être trop... pris dans des systèmes, hein, vous, au contraire, vous ouvrez tout, vous êtes assez. C'est une grâce de notre temps, c'est une grâce de la jeunesse actuelle. Ils sont créatifs, vous avez beaucoup de potentiel, ne serait-ce que vous verrez bien les médias, etc. Bon. Alors donc, mais je me dis, mais est-ce qu'il y en a qui vont oser faire des choses, voilà, qui sortent de l'ordinaire, et est-ce qu'ils vont oser? Est-ce qu'ils vont oser? Alors ça, c'est vraiment la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens. On a reçu l'amour de Dieu. On est responsable de le donner. Et c'est beau de voir que nous avons besoin d'être mis en responsabilité. Et le Seigneur, vous savez, quand il répare votre cœur, hein, c'est la première chose qu'il fait. Il répare votre cœur. Puis ensuite, vous savez ce qu'il fait? Il le blesse. Regardez, hein, c'est marqué dans l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. Vous venez à Jésus, à Paris le Monial, paf. Le Seigneur console votre cœur, vous guérit profondément de votre péché. Parce que le péché, c'est une mauvaise blessure. C'est une mauvaise blessure. C'est une blessure de votre... Voilà. C'est une souffrance inutile. C'est une souffrance inutile. Puis après, il dit, je vous soulagerai. Et après, il dit, chargez-vous de mon joug. Alors, je comprends pas, il nous soulage et puis après, il nous charge. Chargez-vous de mon joug. Et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Alors, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Une fois qu'il nous a bien... Alors, parce qu'on pourrait s'endormir après. Ah ben, il m'a consolé, Jésus. Il est heureux. Bon. Jésus, les petits oiseaux, il blesse notre cœur. Regarde ton frère. Il ne connaît pas l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux dormir en sachant que ton frère ne connaît pas l'amour de Dieu? Il va blesser notre cœur. Et c'est parce que notre cœur va être blessé d'amour qu'il va devenir génial. Vous avez envie d'être génial? Laissez-vous blesser d'amour pour vos frères. Vous savez, Jésus a beaucoup de serviteurs, il a peu d'amis. Il a beaucoup de serviteurs. Le serviteur, c'est celui qui arrive, qui dit, bon Jésus, garde à vous repos, dis-moi ce qu'il faut que je fasse, je le fais. Voilà, alors, c'est les disciples. Tu arrives, qu'est-ce qu'il faut faire? On le fait. Oui. Un ami, c'est pas pareil. Si moi je viens vous voir et je vous dis, si vous venez me voir en me disant, voilà Francis, j'ai vécu un truc difficile, est-ce qu'on peut en parler, etc. Et je dis, écoute, on va dire un jour salut Marie, puis au revoir. Vous allez me dire, c'est pas vraiment mon ami. Si vous venez me voir en me disant, voilà, j'ai un truc, j'arrive pas à en sortir, est-ce que tu peux m'aider? Et je dis, bon, alors voilà, comment on va faire? Comment nous allons faire pour sortir de ton problème? Votre problème devient mon problème, voyez? Et là, vous vous dites, ah ben, Francis, c'est mon ami. Voyez? Mon problème est devenu son problème. C'est mon ami. Alors, quand vous venez à Jésus, vous lui proposez, vous lui dites vos problèmes. En général, là, Jésus, j'ai mal là. Bon, vous leur dites son problème. Et Jésus, écoute, ça devient son problème. Il le prend sur la croix. Il prend votre problème. Ça devient son problème. Et il en est blessé même. Voyez? Mais maintenant, Jésus, il vient vous voir. Il vient à vous, il dit, Pierre, Jean, Camille, je sais pas, j'ai un problème. Tu veux bien m'écouter? Ouais. Alors Jésus, il peut vous donner un problème. Il a un problème, est-ce que vous voulez bien l'écouter, son problème? Son problème, à lui, c'est qu'il veut sauver le monde. Son problème, à lui, c'est le salut des âmes. Est-ce que ça devient votre problème? Ou pas. Vous voyez, il a beaucoup de disciples, il a peu d'amis. Pourquoi? Parce que ça doit devenir votre problème. Se laisser blesser par le fait que les autres n'ont pas la foi, ne connaissent pas l'amour de Dieu. Moi, il m'a réparé. Et les autres, alors, qu'est-ce qu'ils deviennent? J'étais avec un jeune de l'école d'évangélisation. On était... il avait peur d'évangéliser. On allait, c'est normal, hein, des choses comme ça. On partait en mission. Et il disait, mais est-ce que je vais être capable ou pas capable? C'est son problème, c'était est-ce que je vais être capable? C'est donc c'est un problème, hein, c'était son problème à lui. C'était donc lui. Bon, d'accord. Et on part à évangéliser, et puis après, bon, une fois qu'on est en mission, vous savez, on ne réfléchit plus. Hein, on y va, je ne dis pas on tire sur tout ce qui bouge, mais on fait de l'évangélisation, quoi. Voilà. 3 jours après, il vient me voir et il me dit, mais Francis, qu'est-ce qu'ils vont devenir, les gens? Tous ces gens qu'on voit, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Là, j'ai dit, là, c'est bon, là, tu deviens missionnaire maintenant. C'est devenu ton problème. Tu n'as pas dit, mais que font les prêtres? Mais que fait la police? Mais alors? C'est devenu ton problème. Tu, dans ton cœur, tu souffres du fait que les autres ne croient pas en Dieu. C'est devenu ton problème. Tu es devenu l'ami de Jésus. Donc Dieu va te combler de grâce. Dieu va te combler de grâce. Et le troisième point, après la dignité et la responsabilité, qui est vraiment magnifique d'avoir une responsabilité, une vocation, une mission, c'est la fécondité. Dieu vous donne, nous donne une fécondité, et c'est aussi une grâce. Vous savez, quand on est jeune, on cherche le succès. On cherche le succès. Parce que le succès nous mesure. Vous voyez ? On peut dire après les autres, vous avez vu, hein, j'ai réussi, hein, vous pouvez m'aimer, hein, c'est génial, vous avez vu, j'ai réussi. Bon. La réussite est très importante quand on est jeune. Après, quand on a un peu plus vieilli, on cherche le pouvoir. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, c'est quelle influence j'ai sur les autres ? Quelle influence j'ai sur les autres ? Est-ce que j'ai une vraie influence ou pas influence ? Est-ce que je, voilà. Est-ce que je sers à quelque chose ou pas ? Et puis ensuite, ben, on cherche la fécondité. Et on peut très bien être fécond sans avoir le succès ni le pouvoir. On peut avoir d'ailleurs le succès sans avoir le pouvoir, on peut avoir le pouvoir sans avoir le succès. Mais la fécondité, vous voyez, c'est quelque chose d'autre. C'est une petite mère de famille qui ne fait rien. Puis, voilà. Un Pier Giorgio Frassati, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, on ne sait pas, mais le jour où il est mort, tout le monde est arrivé en masse autour pour ses obsèques. Tout sortait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fécondité énorme. Ou un Benoît Labre. C'est un SDF, moine d'SDF. Ouais, on s'est jeté sur ses poux à la fin pour avoir des reliques. Voilà. Le jour où il est mort à Rome, des milliers de gens sont arrivés pour ses obsèques. Le saint est mort, le saint est mort. Qui c'est ce gars-là ? Personne ne savait. Bon, voilà. Une fécondité. Ou une mère de famille qui n'aura ni succès ni pouvoir. Et puis tout à coup, on se rend compte, quand elle n'est plus là, qu'il y a un trou énorme. Qui a eu un rayonnement fantastique. Dieu nous appelle à une fécondité. Et du coup, cela, on peut l'avoir dès maintenant. Alors, je vais arrêter là, parce qu'on va avoir la messe. Ne repartons pas sans avoir ouvert notre cœur à Jésus. Première chose, je résume. Sans avoir ouvert notre cœur à Jésus. Ne repartons pas sans lui avoir donné notre vie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Est-ce que vous avez déjà pensé, tiens, aujourd'hui je donne ma vie à Jésus. Est-ce que vous avez déjà fait? Parce qu'il y a un avant et un après, hein, vous savez. Je donne ma vie à Jésus, quelle que soit votre vocation. Ça, la vocation, c'est secondaire. Je donne ma vie à Jésus. Pourquoi? Parce que ça lui appartient de toute façon. Ce n'est que justice. C'est lui qui me l'a donné, ma vie, ben, je lui rends. Alors si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Il y a un avant et un après du moment où vous avez dit « Je donne ma vie à Jésus ». Les gens que vous rencontrez, la providence de Dieu ne sera pas la même quand vous avez donné votre vie. Parce que Jésus vous prend au mot. Hein, hein. Donc, donnez votre vie à Jésus. C'est vraiment important. Troisièmement, mais laissez-vous regarder le prix que vous avez. Émerveillez-vous de ce que vous êtes. On ne donne pas. On ne se donne pas, c'est le cœur du don. On ne donne pas quelque chose de nul. On donne parce qu'on sait qu'on est quelqu'un de bien. On ne donne que le bien. Le bien seul est diffusif de lui-même. On ne donne que le bien, on ne donne jamais le mal. Voilà. Et puis, voyez, intérieurement, s'il vous manque quelque chose au niveau de la dignité de votre personne, réconciliez-vous avec Dieu. Demandez au Seigneur de vous redonner cette belle image de vous-même, non pas l'image idéale, le démon, mais ce que vous êtes, d'être heureux d'être vous-même. Que demander au Seigneur de comprendre pourquoi il vous a fait, quel est le sens de votre vie, quelle est la mission qu'il a pour vous. Très important. C'est notre dignité de savoir qu'on a une mission sur Terre. Troisièmement, demander dès maintenant une fécondité, un rayonnement, pour que au-delà de ce que vous faites, eh bien les autres soient touchés par l'amour de Dieu. Seigneur, nous te le demandons, nous qui sommes ici maintenant, au lieu où tu as révélé ton cœur, mets-nous dans ton cœur, fais-nous brûler de ton amour, et que rien ne nous empêche de recevoir ton amour. Amen.